Shabatini.
Radio G 101.5 FM.
Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission préférée, il est l'heure Monseigneur. Aujourd'hui on est en petit comité pour le moment, en espérant que Ricardo nous rejoigne par la suite.
Il est l'heure pour Ricardo.
Il est à peine l'heure. Donc bonjour Josiane.
Bonjour.
Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour.
Bon, comme à notre habitude, on doit faire découvrir à nos auditeurs une année mystère. Alors, je me suis un petit peu raté cette semaine. C'est une année qu'on a fait il n'y a pas si longtemps. Donc, j'espère que vous allez vous souvenir
comme
et puis
ça,
qu'on va vous donner
si
des.
Vous avez bien écouté.
Voilà, des indices complémentaires, j'espère.
C'est une révision.
Oui.
Voilà. On écoute tout de suite la première chanson de l'année mystère. Il s'agit de Nino Ferrer avec Je voudrais être noir.
Monsieur James Brown, s'il vous plaît, dites-moi comment vous faites, Monsieur Charles, Monsieur King, Monsieur Brown. Moi je fais de mon mieux pour chanter comme vous, mais je ne peux pas grand chose, je ne peux rien du tout. Je crois que c'est la couleur de ma peau qui ne va pas. Dis-moi, Monsieur Phobus, dis-moi comment les blancs font pour vendre les nègres à l'Argus et pour en brûler de temps en temps. Et moi, je fais de mon mieux pour ne pas y penser. Je me sens très souvent très, très embarrassé par la couleur de ma peau qui me démoralise un petit peu. Les élus et vous les simples d'esprit, vous qui chantez tout de blanc vêtu dans les verts pâturages près de lui, dites-moi s'il vaut mieux pour entrer dans ce royaume avoir plutôt la peau noire ou plutôt la peau jaune. Et si le blanc n'est pas une couleur déconseillée parmi vous, je voudrais cette noire.
Donc c'était Nino Ferrer avec Je voudrais être noir. Et Ricardo, notre Ricardo national, est arrivé. Bonjour Ricardo.
Bonjour.
On l'applaudit bien fort.
Je voudrais la même chaque fois que je viens au bureau les matins. Je ne sais pas comment vous allez vous arranger, mais je veux que vous passiez le mot à tous mes collègues.
On peut te l'enregistrer, puis tu te le passes tous les matins.
Voilà, on va faire ça hein, au final.
Bon, je constatais en arrivant quand même que la moyenne d'âge a fortement remonté. Hein.
Oui, Valentine la faisait descendre.
C'est ce que je disais.
Ricardo, tu as raison, effectivement, Valentine n'est pas avec nous puisqu'elle reprend sa vie d'étudiante et comme tous les étudiants, elle doit faire des stages, donc elle part à l'étranger là incessamment sous peu. Ricardo, on est sur l'année mystère. Moi, j'ai orienté des choses sur le cinéma parce qu'on l'a déjà faite cette année mystère. Est-ce que tu pourrais nous parler, par exemple, du film La Grande Vadrouille?
Alors, je ne me rappelais pas qu'on l'avait fait cette année.
Moi, cherchant des trucs, je me suis dit, ah bon, j'ai déjà parlé de sa mort à une année.
Mais c'est drôle parce que je me rappelle aussi que j'avais déjà parlé de La Grande Vadrouille.
Voilà.
On disait justement que c'est un des films mythiques sortis cette année-là. Je pense que tout le monde l'a vu, le connaît. Et revu d'ailleurs.
Et qui a conservé des années et des années le record d'entrée en France.
Et vu et revu plusieurs fois.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça passe à la télé.
Il a fallu attendre, je crois. C'est Bienvenu chez les Ch'tis pour le bac.
C'est ce que j'allais dire. C'est Bienvenu chez les Ch'tis avec ses 20 millions d'entrées, je ne sais plus. Mais oui, c'est vrai que ça a eu un gros classique de cinématographique français. Et on disait, il a fallu attendre Bienvenu chez les Ch'tis, qui est hyper récent, pour le détrôner. Quoi.
Et La Grande Vadrouille, apparemment, il bat toujours des records quand il est diffusé à la télé.
Oui, c'est ce que je dis. C'est pourquoi je parle de vue.
Souvent, c'est à 8h30, 9h.
Vu et revu, quoi.
Alors, moi, spécial dédicace à mon papa parce que c'est le dernier film qu'il est allé voir au cinéma.
Ah oui,
il n'y est pas retourné depuis.
Ah oui, ça date un petit peu.
Oui, mais alors j'avais entendu qu'il prenait des libertés avec le script. Ils ont inventé plein de trucs qui n'étaient pas. Prévus.
En même temps, c'est difficile de les tenir en tant qu'acteur. Ils sont inspirants et inspirés. On va dire, en général, sur les plateaux de tournage, donc ils partent longuement en impro, ce qui arrive beaucoup sur les plateaux de comédie aussi, parfois.
Et toi qui as une culture cinématographique, Ricardo, de Gérard Rouri, est-ce que tu aurais d'autres films à nous communiquer?
Oh, évidemment.
Alors, moi, je parle pas de celui-là, mais Fahrenheit 451, c'était cette année-là?
Alors, ça, c'était de François Truffaut. Ah, peut-être. Oui, ça peut être, c'est possible. Mais là, c'est Gérard Rouri. En film de Gérard Rouri, à peu près à la même époque, il y avait le Corniaud, bien sûr.
Ah oui.
Hein, mais en couleur aussi.
Avec le même interprète.
Les deux mêmes.
Bah, tout à fait.
Hein. Et un petit film mythique quand même pour notre émission, puisqu'on l'entend dans notre générique.
Un peu plus tard. Un peu plus tard, juste après la mort de Bourvil. Parce que c'est Bourvil qui devait jouer.
Alors, la folie des grandeurs, c'est pas l'année mystère, mais c'est 1971.
C'est ça que je voulais, justement, je me rappelle que quand on avait fait cette année-là, on avait justement parlé.
Alice Sapritch.
Avant mon épisode d'étouffement, que j'espère que vous avez coupé, c'est de ça que je voulais parler et qu'on entend dans le générique. Et là, c'est les phrases, en fait, qu'on entend.
Il est l'or, Monseigneur.
Qu'on entend dans le générique.
Mais c'était donc Yves Montand a remplacé. Évidemment, il a remanié le scénario parce que c'est plus du tout le même personnage et c'est d'être Bourvil quoi. Il devait refaire encore le duo
pour Josiane et Jean-Jacques. Cette même année, on avait les films Paris brûle-t-il.
J'adore ce film. Alors, noir et blanc
pour le coup.
Ah oui. Je te jure.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, parce que on peut transmettre aussi aux jeunes auditeurs. Alors, et là, Paris brûle-t-il, moi je ne l'ai pas.
Alors, important, Paris brûle-t-il, c'est un film donc sur la résistance et sur la libération de Paris. Hein, et avec une distribution époustouflante, un peu comme Le jour le plus long, hein, avec pas mal d'acteurs français, puisque c'est un film français, c'est René Clément qui l'a fait, alors que Le jour le plus long, c'était surtout des metteurs en scène américains. Dans la Paris brûle-t-il, bon, t'as des grands, par exemple, t'as Alain Delon qui joue le rôle de Chaban Delmas, parce que c'est des personnages réels.
Oui, bien sûr.
T'as, comment il s'appelle, Belmondo qui joue le rôle d'une sorte de préfet, tout ça. Colis, enfin tout ça. Et alors là, anecdote, les gens le connaissent peut-être aussi, mais je vais le répéter quand même. Un petit débutant, Michel Sardou, qui
qui joue l'acteur ou chanteur?
en acteur. Un acteur, mais il, je crois, je sais pas si on l'entend parler, mais en fait on le voit mourir seulement, hein, parce que en fait, tu sais, il y a des jeunes qui se sont fait piéger par un salopard de collaborateur qui est joué par Jean-Louis Trintignant, hein, et ils sont embarqués dans un camion dans une forêt et par les nazis, donc, et ils sont fusillés là, et lui, et alors il y en a un même qui crie en sortant vive la France et tout ça, pas Sardou, je pense.
Donc
pas.
Michel Sardou a commencé par la fin.
Ça, c'est exactement. Quel humour.
Et justement, il y avait, en parlant de sortie, il y avait un film que j'essayais de retrouver, si c'était bien cette année-là, mais oui, c'était cette année-là, quand même mythique, Le Bon, la Brute et le Truand, avec Clint Eastwood. Oui, c'était cette année-là. J'avais un petit doute si c'était pas... que c'était deux ans après, mais j'ai un petit doute.
Si t'as vérifié, c'est bien.
Oui, ouais, non, ouais, j'ai vérifié là, j'ai triché un peu, et c'était vraiment cette année-là.
Ouais. Alors, dans un style un peu, pas western, mais pour une poignée de dollars... Hein. C'était aussi au box office.
De toute façon, c'est le même metteur.
Ah, je me rappelle pas.
C'est Sergio Leone.
Hein. Oui. Et alors, il m'a semblé, j'ai pas retrouvé l'information, mais qu'il avait été tourné en France, ce film. Il m'a semblé que pour une poignée de dollars, il me semblait qu'il y avait des prises de vue dans les gorges du Tarn, mais j'ai pas pu vérifier l'information.
Ah, ça à vérifier, ça peut être.
Et en parlant de la Grande Vadrouille, il y a quand même eu la même année deux sorties de Louis de Funès avec le restaurant, ou je sais plus.
Le grand restaurant,
voilà, c'était ça. Je crois que c'est.
Oui, enfin, attends.
Il a été productif.
Je vais te dire quelque chose, dans les années 60, il en a tourné, là. Que ça soit toute la série des gendarmes ou presque, parce qu'il en a tourné un paquet. Que ce soit le grand restaurant, les deux houris, si on peut dire considérer le troisième, aussi, parce qu'il était là aussi. Lui.
L'aile ou la cuisse, c'est aussi.
Pareil, mais c'est en 60, dans les années 70.
Oui, c'est plus récent.
Avec Coluche, c'est avec Coluche.
Donc c'est un peu plus récent, oui. Le fameux critique gastronomique.
Bon, le cinéma, c'était une chose, mais il y avait d'autres événements, Josiane, que tu avais noté.
Je me demandais qui a peur de Virginia
Woolf avec Elizabeth Taylor.
Ah, d'accord. C'est dans ces années-là que c'est sorti.
Ah, je sais pas. Je sais pas. Là tu
me dis. Je sais pas aussi.
Moi, je donne raison à Josiane. Josiane a toujours raison.
Oui. Alors, dis donc, si ma fille t'entendait...
Même quand elle n'a pas raison, elle aurait pu avoir raison, donc elle a raison.
Au secours. Bah, écoutez, puisqu'on était dans ce genre-là, à la télévision, les émissions qui démarrent, ça vous dit quelque chose? Au théâtre ce soir.
Ah, tu te rends compte? Ça a duré. Alors toi, t'as jamais connu ça?
Non.
Au théâtre ce soir, en fait, c'était des captations de. Mais en fait, c'était organisé par la télé. Attention, c'était Pierre Sabag qui s'en occupait. Il a été directeur de chaîne après tout ça. C'était l'ancien mari de Catherine Langer. Ça te dit rien non plus? C'était l'inventeur du journal télévisé à la télé.
Qui a fréquenté notre président Mitterrand? Catherine Langer.
Pas Pierre Sabag.
On pourrait citer des vivants.
Ah, c'est vrai.
Alors, donc, au théâtre ce soir, c'est une émission qui devait être mensuelle.
Et qui réunissait tout le monde.
Très, 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 très suivie. Hein. Ouais. Quand ça a été, arrêté, oh mon Dieu, voilà. Alors, moi j'étais encore assez jeune à cette époque-là.
Tu es toujours jeune, Josiane.
Moi, tu parles. Daktari, ça vous dit quelque chose?
Ouais, le lion qui louche. Voilà. Clarence, je crois qu'il s'appelait.
On avait aussi un autre animal, Flipper le dauphin.
Oui, Flipper le dauphin. Après, Flipper le dauphin, c'est vraiment intergénérationnel, parce qu'il y a eu un dessin animé qui est resté très longtemps. Moi, j'ai grandi avec les petites animations de Flipper le dauphin.
Alors, il y a eu aussi Oum le dauphin.
Ah, je connais pas. Moi, c'est Flipper le dauphin que je connais.
C'est un dauphin blanc avec une musique de Michel Legrand. Ouais. Mais ils ont fait une adaptation bien française. Hein.
En dessin animé, c'est Flipper que j'ai connu.
Alors, on a eu aussi Mission Impossible. Qui a été repris et tout ça.
Alors, en série télé.
Voilà,
la série. C'est comme ça que ça a commencé.
Et ensuite, il y a eu les films avec Tom Cruise.
Bien sûr.
Et puis alors, dans les séries, Ma sorcière bien-aimée, bien sûr.
Ouais.
Voilà.
Quand t'as tordé son nez, tu sais.
Alors, Ma sorcière bien-aimée, c'était une série qui a duré des décennies, ça, il me semble.
Après, il y a eu plusieurs adaptations, plusieurs remakes, plusieurs changements.
Elle, Elisabeth Montgomery, qui faisait le rôle de la sorcière. Et il y avait son mari, il y a eu plusieurs acteurs. Oui, Samantha. Il y a eu plusieurs acteurs qui sont succédés. Oui.
D'accord. Ah bah puis il paraîtrait Batman.
Oui, alors il y a eu le Batman qui a eu là, bon, c'était quand
en
même
dessin animé,
très...
je pense, non ?
Non, en film, en film.
Alors oui, oui, avec en les film, avec les collants.
Batman, c'est Batman, ouais, ouais. Batman et Robin d'ailleurs, je crois.
Bien sûr.
Et mais c'était c'est
oh, ça humoristique.
Non, c'était pas humoristique, mais c'est très vieux. Enfin, ça a pris beaucoup de vieux. C'est voilà, non, c'est très
parce
vieux.
Parce que moi, je l'ai revu. J'en ai revu je regarde même pas un épisode complet parce que. Ça tient pas le coup après.
C'est très vieux.
C'est pas noir du tout, hein. C'est très coloré.
C'est un couleur. Et c'était Batman et Robin. Bon. Combattre le Joker.
Pas
c'était
méchant.
Batman
pas
et Robin combattre le Joker.
Les amis, on va faire une petite pause musicale à nouveau. Et puis on revient après pour parler un peu plus de l'année mystère. On va écouter tout de suite Sheila avec Bang Bang. Reprise.
Michael Keaton.
Bon, ils étaient en train de s'étriper sur Batman pendant que Josiane dansait tout ce qu'elle pouvait sur.
On essayait de retrouver les acteurs qui ont incarné Batman parce qu'on s'est rappelé du coup que cette année il y avait un Batman et Robin, qui a bien vieilli, hein, très bien vieilli, mal vieilli plutôt.
Et cette chanson de Sheila, Josiane et Jean-Jacques, qu'est-ce qu'elle vous rappelle?
Relativement. C'était déjà plus ma jeunesse. Je venais d'être maman. C'était l'année de naissance de ma fille.
Donc message à toutes les mères, dès que vous avez un enfant, vous avez vieilli, c'est ça?
Ah ben, c'est-à-dire que tu passes un cap quand même.
On passe au statut de madame.
aïe. Non, mais c'est vrai que c'était les chansons Bah parce que justement, t'as plus l'occasion aussi d'aller au cinéma et tout un tas de trucs. Il faut que tu restes un peu à la maison à t'occuper du bébé. Hein. Et donc, la musique, les disques, la radio, ça tient une place absolument importante. Hein.
Bang Bang, c'est pas la chanson la plus folle de Sheila. Hein.
Non, mais
faut dire que c'était quand même la chanson à donner le titre à un film tourné avec Sheila. C'est le seul film qui a été tourné avec Sheila.
D'accord.
Avec, comme acteur ou scénariste, Guy Lux.
Bon, on va pas sortir du cinéma et de la télé aujourd'hui.
Mais Bang Bang a été une des musiques très très connues d'un film de Quentin Tarantino.
D'accord.
Hein, où là, ça se mitraille sur une chanson très douce. Hein, ça tire pas. Comme dans tous les films de Tarantino, ça s'est rempli de sang. Quoi. Ouais.
Alors, quelque chose qui était beaucoup plus gai, n'est-ce pas, c'est ma mère m'a dit Antoine, fais-toi couper les cheveux. Elle dit ma mère dans 20 ans, si tu veux.
Ah, ouais, je l'ai écouté. Hein.
Je connais pas. C'est de qui
Antoine. Bah, c'est Antoine.
Ah oui, okay.
Les élucubrations d'Antoine.
Autre époque.
Ah, puis alors, une autre un peu dans le même genre, puisqu'il veut pas des chansons tristes, et moi, de Jacques Dutronc.
On va en reparler tout à l'heure, ça.
Voilà. Ouais. Donc, et puis, bah, ça vous savez, dernier concert des Beatles.
Ouais. Hein, je me rappelle.
Leurs adieux à la scène.
On a parlé.
Voilà. Donc.
Alors moi j'ai ça va faire la transition avec le pour ou contre de la semaine. C'est l'année de naissance d'un grand joueur de football qui a fait polémique dans tous les sens. Hein.
Ah oui.
Il s'agit de Eric Cantona.
Ah oui.
Voilà. Alors lui il a subi quelques sanctions ce Eric Cantona hein, parce qu'il a eu des gestes parfois déplacés.
Un peu on va dire. Et taper ou cracher sur un supporter, ouais.
Ouais. Oh pas que envers les supporters, il a aussi eu son lot contre les arbitres. Hein, il me semble.
Quand je le vois sortir du terrain en enlevant son maillot, et là, il est en colère contre l'arbitre.
Hein. Ouais. Et par contre, un excellent acteur depuis. Hein. On ne peut pas lui enlever
c'est,
ça.
C'est recyclé, oui.
Et donc, le pour ou contre cette semaine, c'est pour ou contre les sanctions sur les associations de supporters. Alors, c'est un sujet qui est d'actualité, malheureusement, il y a... Il y a des gestes et des mouvements incontrôlés, on peut dire ça comme ça. Et moi, en préparant ce petit pour ou contre, j'étais surpris de voir la liste des droits qui peuvent exister.
C'est-à-dire
les droits variables selon les associations.
Eh bien, en fait, il y a des droits publics, il y a des droits privés, et il y a le droit social, il y a le droit pénal. Et moi, je me référais exclusivement au droit pénal. Et je me disais que effectivement, quelqu'un qui fait un geste on va dire injurieux qui peut blesser quelqu'un d'autre il est sous le coup du pénal et visiblement c'est pas si simple donc
oui excuse-moi de te couper mais je pense que c'est tout le problème actuellement parce que tout le monde se renvoie la balle entre
le ballon
ouais, c'est le cas de le dire le ballon entre les pouvoirs publics donc le ministère de l'intérieur la préfecture qui est garant quand même de la sécurité on va dire des uns et des autres entre les instances de décideurs du foot donc l'UEFA la fédération la ligue de football et ensuite les présidents de club. Tout le monde se renvoie la balle et on ne sait plus qui doit punir. Non, mais nous, en fait, c'est l'un, nous, c'est l'autre.
Tout le monde se défile.
Le monde se défile. Et moi, je pense que la faute revient un petit peu à tout le monde. Alors, à la question, est-ce qu'il faut des sanctions ? Oui.
Oui. Alors, le problème, c'est pourquoi est-il si compliqué d'identifier les auteurs d'actes malveillants ? Aujourd'hui, si ce sont des associations déclarées, constituées, des responsables, on peut facilement aller les chercher.
Alors,
Et si ces responsables se détachent des actions qui sont menées, ils peuvent eux-mêmes faire le nécessaire et porter plainte contre les auteurs.
Alors non, ça va plus loin que ça, et c'est ce que ça rejoint le point que je voulais aborder au départ, la fuite des responsabilités. Aujourd'hui, il y a conflit d'intérêts entre les clubs et les supporters, parce que on demande. Moi, je pense que les premiers qui doivent sanctionner, ce sont les clubs. On doit responsabiliser les clubs pour dire aujourd'hui on a des moyens. Parce que ce n'est pas, c'est pas toujours des associations constituées qui débordent. Ça peut arriver que ce soit les ultras d'un club, qui, comme on l'a vu à Nice la dernière fois, qui ont chanté et qui insultaient le pauvre Emiliano Sala qui est décédé. Et, ou même les débordements qu'on a vus toujours avec Nice et Marseille en début de saison avec les bagarres. Là, aujourd'hui, on est quand même dans un monde hyper numérique. Il y a des caméras dans les stades. On peut identifier chaque individu. Donc, je pense que si les présidents de clubs disent, on regarde les vidéos dans les stades, il y a telle personne qui était impliquée, vous êtes interdit de stade. Déjà, premier rideau. Sauf que, en faisant ça, ils se coupent. On est quand même dans un monde où il faut quand même de l'argent. Ils se coupent d'une partie de revenus ou de supporters. Ils se mettent aussi, peut-être, souvent, c'est les ultras, les décideurs, enfin, comme on dit aussi, les associations de supporters. Quand ça ne va pas trop dans les clubs, déjà, se mettent en plus à dos les supporters. Il y a un conflit d'intérêts ou une peur, justement, de se mettre ces supporters à dos, ce qui fait que ces clubs n'agissent pas. Et ensuite, on remonte à l'autre niveau. Il y a la Ligue. La Ligue aussi doit sévir, mais la Ligue se range dans un entre-deux entre justement les pouvoirs publics et ces clubs-là qui doivent agir.
Ça veut dire qu'il y a toujours de l'argent derrière tout ça ?
Oui, très clairement. Il y a le conflit, enfin, se mettre simplement les supporters à dos, enfin, être dans les bonnes grâces des supporters, et il y a aussi un problème financier. Et pour les pouvoirs publics, c'est juste simplement une fuite des responsabilités. Parce que moi, je pars du principe que si dans la rue, on a des gestes, on va dire, déviants, que ce soit en injure ou en comportement punissable par la loi, c'est au pouvoir public de s'en saisir.
Oui.
Mais pourquoi, quand ça se passe dans le foot, dans un stade, on considère comme si...
C'est privé.
Le stade est un no man's land. Et que c'est pas...
C'est
on est quand même dans
d'agir.
Une ville, dans un pays, dans un... Voilà.
Alors, qu'il y ait un enjeu financier, ça c'est indéniable, hein, effectivement. Aujourd'hui, moi j'ai même pas idée de combien peut être le prix d'un abonnement annuel de...
Une place dans une tribune.
Oui. Est-ce que ça coûte...
Très variable.
Est-ce que ça coûte 200 euros, est-ce que ça coûte 1000 euros, j'en ai pas idée.
C'est très variable en fonction des stades et des clubs.
Mais dans tous les cas, je trouve que l'image du club en pâtit, et j'imagine que les recettes commerciales sont aussi proportionnelles aux déviances des clubs et des supporters, non ?
Alors, financièrement, oui, comme sanction, il peut y avoir parfois que la Ligue décide qu'il y aurait des matchs à huis clos suite à des débordements ou des retraits de points par rapport à l'équipe. Par exemple, ce qui est assez cocasse et dommageable pour Nice, il n'y a pas que ça, il y a la saison qui compte, mais aujourd'hui, Nice a raté la marche vers l'Europe à un point. Et c'est un point qui lui a été retiré à cause des débordements de leurs supporters. Donc voilà, au final, et moi je vais même plus loin, ok, on doit responsabiliser les clubs, punir à travers les points, les clubs, pour que ça touche aussi les supporters. Mais moi je me dis, pourquoi c'est toujours aux clubs de payer ? Pourquoi c'est aux joueurs qui se mouillent le maillot sur le terrain, qui doivent payer pour les débordements de leurs supporters ?
C'est pour ça que je pense qu'il y a un moment où il faut porter plainte contre les actes malveillants.
Voilà, moi je pense qu'on doit rentrer dans la responsabilité individuelle et de la responsabilité civile, que quand tu commets, que ce soit un geste raciste, homophobe ou débordement, tout ce qu'on veut, la caméra identifie et que ce soit porté au pénal. On a vu aujourd'hui, même les supporters qui lancent des projectiles sur les joueurs, blessent des joueurs. On dit simplement le supporter de tel club, donc on enlève des points ou on... Non.
Ça
aujourd'hui, tu fais ça dans la rue.
La personne elle-même.
Voilà, on porte plainte et t'es poursuivi. Beaucoup de blessures. Ouais. Donc,
ça me semble logique. Tu vas au cinéma regarder un film, tu balances quelque chose, tu blesses quelqu'un. C'est logique que la personne ait un recours.
Oui.
Donc en l'occurrence, le cinéma ne serait pas responsable de l'acte individuel.
Et en cela, je pense que pour finir,
Jean-Jacques, ça le démange.
Continue.
Non, mais juste pour finir avec ça, je pense que donc à différents niveaux, il faut que chacun prenne ses responsabilités. C'est-à-dire au niveau des clubs, qui est des interdictions de stade, quand on repère qui a fait quoi. Ensuite, que ce soit saisi, qu'il y ait des plaintes qui soient portées, que ce soit au pénal ou au civil, que ce soit pris par les pouvoirs publics et qu'il y ait d'autres sanctions que les interdictions de stade. Donc, je pense que si il y a chaque couche différentes punitions et des punitions voilà à la hauteur de ce qui a été commis, peut pas aussi être trop exagéré non plus, mais il faut pas aussi être trop clément. Je pense que ça découragerait quand on saura que ce n'est plus mon club simplement qui sera puni. J'engage ma responsabilité quand je commets un geste répréhensible dans un stade. Je pense que ça changerait beaucoup d'attitude des supporters.
Bah Jean-Jacques, quel est ton avis? Puis on va te demander de conclure sur le sujet.
Je vais être très court. Non, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Je vois un autre aspect justement de la chose, c'est-à-dire que quand quelqu'un fait un acte de violence comme ça, comme tu dis, balancer une tête et que ça tombe sur la tête de quelqu'un et que ça l'assomme et tout ça, les autres le voient faire. Il le fait pas en cachette. Donc je veux dire, je veux pas dire que je veux que ça soit.
Personne va le dénoncer.
Je veux pas aller jusqu'à la dénonciation, mais je veux dire, là, c'est un acte collectif. La responsabilité est collective. Faut pas dire que c'est lui qui l'a lancé, tout ça. Oui, mais tu vas pas dire qui c'est. Donc, il y a une responsabilité collective.
Le problème, c'est que dans le collectif, une fois que l'acte est fait, il est trop tard. Et pire, il y en a qui vont le copier. Et c'est bien là le problème.
Oui, puis a priori, t'es dans une ambiance où t'es soulevé aussi, tu peux être appelé à faire des trucs que tu regrettes après.
Qu'est-ce qui a entraîné la Révolution française? C'est les mouvements de foule, l'instinct montagnier, hein, l'instinct grégaire, on suit
la
psychologie de foule, la psychologie de masse.
De toute façon, par rapport à tout ça, je veux dire, on sait qu'il y a eu des commentaires télé qui enclenchait ce genre de je veux dire que la responsabilité de l'arbitre, l'insulte envers l'arbitre, on a entendu des gens qui se sont complètement et c'est pour ça c'est difficile de savoir la responsabilité. La responsabilité, elle est à plein de niveaux. Tu parlais de couches et tout ça. Ah oui, oui, oui. Mais ça commence rien qu'aux commentaires. Je veux dire qu'il y a des moments, il se désole. Mais je veux dire, si t'avais pas dit ça juste avant, ça serait peut-être pas. Et c'est le genre de choses. De toute façon, bon, je veux dire, je suis pas contre les supporters. Je trouve que les supporters, on sait parfaitement que un club ne peut vivre que grâce aux supporters. Mais moi, j'en ai pas besoin des supporters. Hein. Je veux dire, j'ai entendu des commentaires de supporters ou de président d'association de supporters qui me révulsait. Je trouvais que c'était vraiment, il se défaussait complètement et il disait c'est la faute, toujours renvoyer la balle à quelqu'un. Ils auraient dû faire ça, ils auraient dû. Il y a les responsabilités à partager.
Moi j'adore le foot, donc je suis aussi supporter de foot. Mais je trouve que s'il y a une chose qu'on partage bien dans ce milieu, c'est la mauvaise foi. Parmi les supporters, c'est la mauvaise foi. C'est jamais. On trouve toujours que c'est la faute de l'autre club. Si l'autre fait, c'est jamais la faute de notre équipe. Voilà, et tout le monde sait. Et quand on entend effectivement des journalistes qui ont aussi des aspirations, qu'on le veuille ou pas, d'un ou deux clubs s'ils ne le disent pas, ou des présidents de clubs suivent cette vague-là et ne pas prendre leurs responsabilités et pointer du doigt chaque fois c'est la faute aux autres, c'est eux qui ont commencé. À un moment donné, oui, on s'en sort pas. Quoi. Ouais, c'est pourquoi il faut qu'il y ait des punitions.
On va apaiser un petit peu l'ambiance. On va mettre une nouvelle chanson. Je vous propose d'écouter Un homme, une femme de Nicole Croisilde et Pierre Barou. Voilà, à tout de suite.
Encore une
C'était donc Nicole Croisil et Pierre Rabou, Barou, pardon. Nicole Croisil et Pierre Barou, pour Un homme, une femme, qui était le générique de, du film Un homme, une femme.
Qui a voilà. été primé à Cannes cette année-là.
Exactement.
Et qui a eu un Oscar.
Ah ben ça, oui.
Eh oui, il a eu l'Oscar, le Louche. L'Oscar.
Est-ce que vous avez regardé la diffusion de la suite ces derniers jours à la télé?
Une des suites, parce que...
Une des suites, oui.
Non, je ne l'ai pas vue, moi.
Il y a eu 20 ans après, il y a eu...
Non, non, non.
Nos jours heureux, hein, c'est ça?
Ouais.
Alors moi j'étais très surpris de l'apologie de la vitesse dans ce film.
Tu veux dire dans le film de l'année en, mystère en question.
T'as, oui.
J'ai pas dit, je l'ai pas dit.
Applaudissements.
Oui, bien sûr.
Petite victoire de la journée.
Il y avait une Ford Mustang.
Une Ford Mustang, oui. Et effectivement.
Bah, il tourne sur la plage, je me rappelle. Mmh. Ouais, c'est ça.
On s'encombrait pas hein, des règles à l'époque. Hein.
Il n'y avait, avait même pas la ceinture de sécurité. Hein,
quand on dit c'était mieux avant, je ne suis pas sûr en fait. Hein.
Pas sûr.
Bon, Jean-Jacques, tu nous as préparé une chronique, je crois, pour l'UFC Que Choisir cette semaine sur les EHPAD.
Oui, alors en fait, l'UFC Que Choisir a édité un communiqué de presse. Donc je vais en faire un petit résumé. Hein, je vais vous faire grâce des chiffres. L'accès aux EHPAD dans le Maine-et-Loire, l'UFC Que Choisir est en alerte. Alors que les récentes informations sur les pratiques d'EHPAD privés ont logiquement scandalisé l'opinion, vous savez, vous en avez tous entendu parler quand même, l'UFC Que Choisir de Maine-et-Loire rend aujourd'hui publique la situation sur l'accès aux EHPAD dans le département. Déplorant l'organisation de l'accès aux EHPAD, l'UFC Que Choisir de Maine-et-Loire formule plusieurs demandes visant à permettre la systématisation d'une prise en charge humaine des seniors en EHPAD à des tarifs abordables. Une répartition très hérogène des places d'EHPAD en France. Les EHPAD privés tirent les prix vers le haut. Au vu des constats dressés et dans un contexte où le vieillissement de la population va mécaniquement s'accompagner d'une hausse des situations de dépendance, l'UFC Que Choisir de Maine-et-Loire, attaché à la liberté de choisir du type d'EHPAD, est soucieuse d'assurer aux seniors n'ayant d'autre choix que d'en intégrer un, de pouvoir trouver un établissement permettant une prise en charge humaine à un tarif raisonnable. Nous demandons que les EHPAD privés aient tous l'obligation de proposer un nombre suffisant de places éligibles, à l'aide sociale et l'hébergement. ASH, oui. Un plafonnement des évolutions tarifaires des EHPAD privés. La mise en place d'un taux d'encadrement minimal obligatoire pour tous les établissements et de porter ces taux à la connaissance des consommateurs. Le nombre de personnels soignants en EHPAD est en général insuffisant. Que les associations agréées en santé soient représentées au sein des conseils de vie sociale des EHPAD pour veiller au bien-être des résidents. Les hôpitaux et les cliniques l'ont fait et en sont satisfaits. Les EHPAD peuvent le faire. L'œil et le soutien extérieur est indispensable aux résidents et aux familles. Afin de limiter les restes à charge, parfois prohibitifs et durables, frappant les résidents, l'UFC Que Choisir rappelle également que l'association promeut depuis plus de 10 ans la mise en place d'un bouclier dépendance 4, financé par la Solidarité Nationale. Enfin, l'association indique l'existence sur le site internet quechoisir.org d'une carte interactive librement accessible indiquant les prix pratiqués par l'ensemble des établissements tout en rappelant que le prix ne peut pas constituer le seul critère de choix.
Merci Jean-Jacques. Alors on est directement concerné hein, par le sujet puisqu'autour de la table il y a France Alzheimer 49 et la halte répit détente Alzheimer.
Alors, je précise que le communiqué de presse, vous pouvez y avoir accès. Il a été édité en journaux et tout ça. Il vous donne tous les chiffres. J'ai pas osé vous mettre tous les chiffres que j'avais. J'ai fait une synthèse. S'il y a des choses qui vous semblent un petit peu, ne me demandez pas de précision. J'ai essayé d'aller au principal.
Il y a pas un numéro de Que Choisir
ou c'est le comité a été édité ou c'est celui-ci.
Alors, je n'ai pas encore reçu parce que je le reçois en tant qu'administrateur. Je reçois le numéro. Mais en plus, j'étais à l'Assemblée générale ces derniers jours. Non. Le communiqué de presse, il a été édité, le 17 mai.
Oui.
La presse s'en est emparée. Voilà. Il est possible que dans le prochain numéro de Que Choisir, je vous le dirai.
D'accord.
Alors, moi j'ai envie de dire effectivement, hein, nous, il faut considérer les EHPAD à la fois comme des partenaires des familles et puis à la fois comme pour certains des fossoyeurs. Bon, disons le mot, hein, effectivement, c'est loin d'être le cas de toutes les structures privées.
Encore heureux, oui.
Ils assurent d'abord un service. Après,
très bonne structure.
Il y a un manque de place.
Après, effectivement, certains assurent un service et choisissent leurs clients. On va dire ça comme ça, puisque leur objectif, c'est effectivement pour des structures privées d'abord de faire du chiffre. Et effectivement, moi, j'ai tendance à penser que le prix ne reflète pas forcément la qualité du service.
Non.
Alors, quand c'est privé, même au niveau de la santé, hein, finalement, ça se monnaie. On voit le nombre de fonds d'investissement, on va dire, même étrangers, américains, qui investissent aujourd'hui dans les EHPAD privés. Pour vous dire que si un fonds d'investissement n'a pas vocation à faire du bénévolat, on va dire, en quelque sorte, ou à être de philanthrope, tant que s'ils investissent, c'est qu'ils cherchent de la rentabilité. Et quand on cherche où va la rentabilité, qui peut être, voilà, c'est du commerce, hein, mais où va la rentabilité au profit au détriment des familles, c'est ce juste milieu que certaines structures ne trouvent pas. Ouais. Et comme pour rebondir ce que tu disais, c'est en cela, on le constate, nous qui sommes des structures d'aide aux maintiens à domicile, on le constate que les familles, malheureusement, c'est l'une des raisons, hein, ce n'est pas que ça, mais c'est l'une des raisons qui font que certaines familles gardent leurs proches malades à domicile très longtemps. À cause de tout ça, soit la place trop onéreuse ou le reste à charge trop onéreux, et on se retrouve dans des situations en fait qu'on accompagne des familles qui ne devaient plus être avec nous.
On a aussi le fait que en établissement, les conseils de vie et tout ça, les familles ont peur de parler en disant ça va retomber sur le dos
le proche. Oui.
Voilà.
Alors, la perception que j'en ai, c'est qu'il y a 20 ou 30 ans, on rentrait à la maison de retraite délibérément. C'est-à-dire qu'on avait choisi parce qu'on allait y chercher une vie sociale, on allait y chercher des commodités, et c'était bien plus facile de rentrer en maison de retraite et d'avoir quelques services. Aujourd'hui, effectivement, on rentre par défaut parce que le maintien à domicile est devenu trop complexe. Donc, c'est ce en quoi, j'ai envie de dire, c'est des partenaires des familles, parce qu'ils assurent parfois une mission que les familles ne peuvent plus assurer elles-mêmes.
C'est l'objectif. Voilà. On va dire quand toutes les cases sont cochées, voilà. Et quand tout.
C'est pour éviter l'épuisement des aidants.
L'épuisement des familles.
C'est ça, c'est un passage de relais. En fait, il y a les familles, ensuite, bon, avec toutes les structures d'aide au maintien à domicile qui œuvrent, et les pouvoirs publics là. Ensuite, il y a un passage aux institutions après l'accueil de jour. Ensuite, quand la situation évolue et les proches, pour diverses raisons, ne peuvent plus garder à domicile parce que bon, l'aidant, soit professionnellement, soit l'épuisement, ou même
les soins
qui ne peuvent plus être assumés, ou la dangerosité de la personne qui par exemple avec maladie neuroévolutive, qui ne peut
la
plus
violence voilà, du malade,
trouble du comportement, tout ça, on passe le relais à des professionnels, et ces structures-là sont des structures où il y a des professionnels. Voilà.
Et je reviens sur son communiqué de presse, Jean-Jacques. Aujourd'hui, les établissements privés n'ont donc pas d'obligation d'accueil de public finalement modeste. C'est-à-dire que réellement, ils choisissent leurs clients.
Je ne pourrais pas te donner de réponse précise. C'est ce que j'ai compris.
Ouais.
Je pense qu'on demande à ce qu'il y ait plus d'obligations.
Je vais peut-être dire une bêtise aussi, mais des connaissances que j'ai, je rejoins Jean-Jacques en ça, ils n'ont pas d'obligation. Tu choisis tes résidents, c'est comme presque toutes les structures. Il y a un entretien d'accueil, et à la fin, tu décides si vous pouvez accompagner cette personne ou non. Et aussi, les familles aussi ont le droit de regard, hein, comme les familles peuvent dire
je veux cette structure ou non. Une amie qui est obligée de rentrer, donc ses enfants ont cherché partout, ils ont trouvé un truc privé. 4000 euros par mois.
Mmh. Et encore, c'est la moyenne. Pour aujourd'hui, entre 3 et 4000, c'est la moyenne.
Pour le privé, oui.
Qui a 2500 euros de retraite. Et encore 2500 euros, déjà, pas mal, hein. Mais
On a tous des cas personnels.
Après,
on est tous concernés.
Évidemment, parce que.
Je tiens vraiment à relativiser pour qu'on ne soit pas uniquement pessimiste sur la situation, parce que le public et le privé, j'ai envie de dire, ils peuvent assurer des prestations très différentes. Et pour moi, il n'y a pas d'établissement public qui soit en dessous d'établissement privé. Ce qui est sûr, c'est que dans le privé, il va y avoir un souci bien plus attaché sur l'hôtellerie et les prestations de services de nature hôtelière qui ne rajoutent rien à l'accompagnement humain. Mais il ne faut pas non plus trop noircir le tableau et dire que le privé ne fait que de l'hôtellerie. Il y en a qui font très bien leur travail et voilà, heureusement qu'ils sont là.
Ah oui, non, d'ailleurs, on a commencé par ça. Hein. Moi, je disais, justement, il y a certaines structures, enfin, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y en a des structures où tout se passe bien, où il fonctionne bien. Heureusement pour nos personnes âgées. Mais oui, il y a certaines structures où, et c'est ce que je dis, le juste milieu entre la recherche effrénée de profit, du capitalisme, et l'accompagnement n'est pas trouvé forcément. Et les exigences, parfois même des
responsables. Embaucher du personnel n'est pas la priorité.
Voilà. Parce que c'est pas, même.
Budgétairement parlant.
J'ai déjà vu des collègues.
Faire plus avec moins, ça a ses limites. Hein, et ouais. Ça fait déjà longtemps qu'on le sait, quoi.
J'ai déjà vu des collègues responsables d'EHPAD qui en souffrent. Hein, qui sûr. C'est pas. Moi, je veux bien avoir engagé plus de personnel, avoir plus de voilà, au niveau de si. Pour la nourriture, pour le confort, mais j'ai tel budget, on me demande encore de faire des profits, des profits de restreindre, c'est pas dans ce sens, parce que évidemment il y a des actionnaires, il y a des gens en haut et qui ne sont pas forcément dans les mêmes considérations que et sur le terrain aussi, qui ne savent pas ce que les gens vivent.
Pour faire plaisir à Ricardo, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on va écouter Claude François avec le jouet extraordinaire. À tout de suite.
Quand j'étais un petit garçon, plein de vie et de joie, un jour que j'étais très gentil, mon père me rapporta un jouet extraordinaire avec de gros yeux verts. Je l'ai pris dans mes bras, mais quand je l'ai posé par terre, il faisait zip quand il roulait pas, quand il tournait pas, quand il marchait. Je ne sais pas ce que c'était, et je crois que je ne saurais jamais. Tout étonné la première fois, quand je l'ai retourné, j'ai vu qu'il avait sur le ventre de gros boutons dorés. J'ai poussé l'un et l'autre après, puis les ai tirés tous les deux. Mais quand je l'ai reposé par terre, j'ai ouvert de grands yeux. Il faisait zip quand il roulait. Quand il tournait, quand il marchait, je ne sais pas ce que c'était, et je crois que je ne saurais jamais. Il marcha comme un militaire, tout à coup il s'assit. Il passa sous une chaise et puis, soudain disparut sous le lit. J'ai pleuré, tandis que mon père, lui, riait aux éclats. Jouet qui était derrière moi et il faisait zip quand il roulait pas, quand il tournait pas, quand il marchait. Je ne sais pas ce que c'était et je crois que je ne saurais jamais. Les années ont passé trop vite et justement hier, dans le grenier, j'ai retrouvé ce jouet extraordinaire. J'ai appelé mon petit garçon et le lui ai offert. Il était vieux et tout rouillé, mais quand on la posait par terre, il faisait toujours zip quand il roulait pas, quand il tournait pas, quand il marchait. Je ne sais pas ce que c'était, et je crois que je ne saurais jamais. Je ne sais pas ce que c'était, et je crois que je ne saurais jamais.
Donc c'était Claude François avec le jouet extraordinaire. Jean-Jacques, on va enchaîner avec toi, avec ta chronique musicale de l'année mystère, qu'on peut peut-être dévoiler maintenant.
Oui.
Allez, Yann.
Bah, écoutez, on était parti dans l'année 1966.
Voilà. Oui. Donc, il est resté. Voilà.
Donc cette année mystère, on n'a pas présenté tous les événements, puisqu'on l'avait fait il n'y a pas si longtemps.
Oui, alors bon.
Jacques Addy.
Jacques Dutronc. Hein, on ne va pas revenir encore et encore sur tout ce qu'on sait déjà sur sa femme, Françoise Hardy. Enfin, son ex-femme. Enfin, ils sont toujours mariés. Enfin, voilà. Sur son fils Thomas, sur le trio des vieilles canailles avec Eddie et Johnny. Mais là, ce ne sont pas vraiment ses débuts. En effet, il a commencé à jouer de la musique, en particulier de la guitare, dès le début des années 60, dans un groupe, El Toro et les Cyclones. Mais il a rencontré l'écrivain Jacques Lanzmann, qui va devenir son parolier pour de nombreuses années. Et ils vont, à eux deux, mijoter de nombreux succès que nous avons tous dans nos têtes et sur nos lèvres. Enfin, du moins, les moins de... Enfin, les plus de...
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Dans son premier disque, il y a de nombreuses perles, des paroles déjantées, souvent incongrues, sur des musiques dynamiques en diable. Une précision qui peut être aussi une anecdote. Parmi les musiciens de studio réunis pour enregistrer ce disque, un certain Alain Legovic, à l'orgue et au piano.
Un
et
breton.
Musicien. Ce musicien se fera connaître un peu plus tard, dans un autre registre et sous un autre nom. Alain Chamfort.
Ah.
Autre musicien connu, alors là c'est moins connu, mais ayant prêté main forte à pas mal de chanteurs comme Renaud, François Béranger, le guitariste Jean-Pierre Alarcène, qui fonda à la même époque un groupe, les Mods, avec ce même Alain Chamfort. A noter également que Dutronc, pour cet album, fait un petit peu de tout. Chanteur, bien évidemment, mais aussi joue de la guitare, des percussions, de la batterie, et ainsi qu'aux arrangements. On écoute d'abord Et moi, et moi, et moi. Le groupe anglais Mungo Jerry, vous vous rappelez, In the Summertime, reprendra Et moi, et moi, et moi en 73 avec All Right, All Right, All Right.
C'est et suffisamment moi, rare pour être signalé.
Oui, dans l'autre sens, oui.
700 millions de Chinois, et moi, et moi, et moi. Avec ma vie, mon petit schéma, mon mal de tête, mon boîte au foie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 80 millions d'Indonésiens, et moi, et moi, et moi. Avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie. C'est la vie, c'est la vie.
Les chansons écrites par Lanzmann et Dutronc collaient souvent à l'actualité. Et même si les sujets font partie d'actualités anciennes, il y en a qui nous concernent encore.
Tu parles des complotistes.
On nous cache tout, on nous dit rien.
Tu nous parles des complotistes là ? Plus on apprend, plus on ne sait rien. Mais qu'est-ce que tu vas nous apprendre encore ?
Alors, pour la prochaine, la version publique qu'on a fait Dutronc dans les années 90 a été un beau succès, avec des arrangements rock plus actuels. La fille du Père Noël.
J'étais la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard, elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais Jean-Balthazar. Je prends la fille. Elle me dit mais non Balthazar, ne fais donc pas le fier à bras, je suis tombé là-bas.
On est loin des compagnons de la chanson là.
Ah oui, oui. Ah non, mais c'est bien pour ça quand même que ça a été très original. Hein. Mm. Il faisait grand.
Un révolutionnaire.
Rigolo, quoi. Ouais, rigolo, mais avec des trucs.
D'ailleurs, révolutionnaire avant l'heure. Hein. En 68, deux ans plus tard, on.
Tout le monde s'est amusé à chantonner les chansons de Jacques Dutronc. Et celle-ci en particulier, Les Cactus.
Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Dans la vie, il y a que des cactus. Moi, je me pique de le savoir. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Dans leur cœur, il y a des cactus.
Celle-ci également. On l'a longtemps dans notre tête, celle-ci aussi. Les Playboys.
Il y a les Playboys de profession habillés par Cardin et chaussés par Charville. J'y roule en Ferrari à la plage comme à la ville, qui vont chez Cartier comme ils vont chez Fauchon. Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra.
mes genoux.
Je crois qu'il a piégé Josiane.
Non, mais c'est vrai que c'était des chansons hyper...
Ah, on les avait dans la tête après.
On chantait, quoi.
Enfin, un dernier extrait du premier 33 tours donc, de Jacques Dutronc, avec toujours, ou souvent, un rythme saccadé, batterie, plus guitare rythmique. Lorsque la mélodie n'est pas le principal attrait de la chanson, comme par exemple dans le mythique Paris s'éveille, et ou également Le Petit Jardin. Mini, mini, mini.
Et mini jupe, mini moche et lilliput. Il est mini docteur Schweitzer, mini mini ça manque d'air. Mini jupe et mini moque, miniature de quoi je me moque. Ministère et terminus, minimum et minibus.
Alors j'ai une question, moi Jean-Jacques.
Oui.
Il était en avance sur son temps ou il était le reflet de son temps?
Ah, je pense qu'on l'attendait.
Ouais.
Parce que, alors, contrairement à Antoine, par exemple, qui est vite devenu politique, lui. Hein, lui, il était sur les événements quotidiens. Il est sur nos attitudes, sur nos...
La vie quotidienne.
Voilà. Rien que les Playboys, c'est quand il est dans les supermarchés. Tout le monde n'allait pas dans les supermarchés en soi. En soirée, on l'a dit l'année. Oui, je peux le dire. Non, il y avait des choses que je découvrais aussi. Bon, c'était urbain. Hein. Comment il s'appelle, Jacques Dutronc, il était de Paris, hein, vraiment. C'était,
Paris s'éveille.
Que ce soit avec Eddie Mitchell, avec ils se sont connus très très tôt. Hein. Ils faisaient partie de la bande de la Bastille.
Oui, c'était le rêve américain à la française, quoi.
Voilà.
1068. Bien préparé.
Dans un tout autre répertoire, je vais vous proposer d'écouter une chanson, une chanteuse que vous appréciez beaucoup, je crois, c'est Barbara, avec une petite cantate. Et on se retrouve tout de suite après.
Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois, seule je la joue maladroite, similaire et sol do fa. Cette petite cantate fa sol do fa n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes couraient faciles, heureuses au bout de tes doigts. Moi j'étais la malhabile, si mille raisons d'enfant. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà. Et je reste malhabile face à l'enfant. Je te revois souriante, assise à ce piano-là. Disant bon, je joue, toi chante, chante, chante là pour moi. Si mille arrêts, si mille arrêts, si soldofa. Mon ami, ô ma douce, ô ma si petite à moi. Mon Dieu, quelle est difficile cette cantate sans toi. Une petite prière, la 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 la. Avec mon cœur pour la faire et mes dix doigts. Une petite prière, mais sans un signe de croix. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera. Si mille arrêts, si soldofa. Les anges avec leurs trompettes la joueront pour toi. Cette petite cantate que nous jouions autrefois. Les anges avec leurs trompettes la joueront pour toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Cette petite cantate qui monte vers toi.
Bon, Ricardo faisait la déco du studio pendant que la chanson passait.
C'est pour la protection des animaux.
Ah bah oui.